Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue pour la dernière émission sport de la semaine Time Sport sur Beurre FM, votre quotidien du lundi au vendredi de 20h à 21h en attendant l'arrivée de Bilal. Bien sûr, bah je suis contraint d'être aux avant-postes, mais ça va bien se gérer. Donc voilà, l'émission de ce soir de sport afin de passer un bon moment, voilà, durant cette heure. Au menu de ce Time Sport, on parlera notamment de l'AS Monaco. Et est-ce que l'ASM va être un concurrent pour le Paris Saint-Germain? On reviendra sur le choc de ce week-end en première ligue entre City et Liverpool. Et puis à Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison. N'hésitez pas à réagir au standard au 01 53 48 3000 avec Solal qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et voilà, qui vous attend en tout cas. Voilà, il est présent, il est au taquet, il est dans le tunnel. Prêt à, voilà, à réaliser une partie de haut niveau. Tout de suite, je vais vous présenter le magnifique plateau.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
En attendant l'arrivée d'Alisson qui devrait arriver d'ici quelques instants, nous avons Benji avec nous. Comment ça va?
Mais ça va très bien. Et toi, Claude? Bah, pointe de l'attaque aujourd'hui.
Bah, écoute, ça va. Impeccable.
Bah ouais, ça va,
propulsé toi. Devant. T'es sur le banc de touche.
Eh ouais, mais on est là, on est bien présent. En plus, c'est une magnifique journée. Hier, il y a un magnifique son de la FEF qui est sorti son retour. Ça me rend heureux. Ça me comble de joie. C'est une semaine qui se finit très très bien. Après une semaine marathon de mon côté, mais très heureux d'être là.
Benji également est avec nous ce soir.
Mathieu, pardon. Oui, salut Claude.
Salut.
J'espère que tu vas bien et je salue aussi les auditeurs. En tout cas, on a encore un gros programme et on a de quoi s'amuser encore ce soir.
On a de quoi, en effet, s'amuser. Puis, bah, bien sûr, la question, en tout cas, de ce soir après ce choc, verra-t-on le nouveau visage de City selon vous? On y reviendra avec vous. Voilà, tout de suite, le premier sujet. Non, pas le premier sujet. Solal me dit non. Alors, bah, on en profite, Solal. Comment tu vas?
Ben écoute, franchement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je reconnais pas la voix de Bilal. Et après, j'ai ouvert les yeux et là, je t'ai dit, attends, il y a un truc qui cloche. Et, en tout cas, ça fait très plaisir de te voir. Donc, en face de moi,
on Claude, essaye.
Pour ceux qui ne sont pas dans le studio, c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir Bilal en face de moi, les
chroniqueurs. Plus petit, plus clair, pas la même coupe de cheveux.
Mais en tout cas, non, et j'ai oublié. Après, on va me dire, voilà, t'as pas dit ça. Bonasera a tutti, gros big up Nasser. Et vous êtes bien sur Time Sport avec Beurre FM.
Ouais, important. Allez, on enchaîne.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Les amis, l'AS Monaco, auteur d'un début de saison plutôt convaincant, étincelant, même s'il y a eu quelques faux pas, mais les monégasques sont là. Est-ce que, à votre avis, Monaco peut embêter le Paris Saint-Germain dans la course au titre?
Oui, bah, je pense que Monaco, de là à aller embêter le Paris Saint-Germain dans un conquête d'un nouveau titre, je pense que c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je pense que ce sera le concurrent direct du Paris Saint-Germain cette saison. On a beaucoup parlé de Nice, on a parlé de Lille, de Reims, on a parlé au début de saison de Marseille, de Rennes. On a vu que ça, le soufflet était très vite retombé pour ces deux équipes. Mais je pense que oui, Monaco est l'équipe la mieux armée pour venir empêcher le Paris Saint-Germain potentiellement d'avoir un titre facile. On en avait déjà parlé sur cette antenne, mais c'est vrai que les autres années, Monaco commençait très bien, avait un peu de mal à finir au niveau de la fin de saison. Et c'est vrai que ils se sont renforcés, ils ont une profondeur de banc qui est beaucoup plus grande que les autres années, qui pourrait venir compenser quelques blessures de joueurs majeurs. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison, ce qui va pouvoir aussi les aider à avoir toute leur force dans le championnat de France. Et en plus de ça, ils vont affronter un Paris Saint-Germain qui est très handicapé ce week-end, puisqu'on a eu la blessure de Zaïre Emery. On a Marquinhos désormais qui ne sera pas présent. Donc c'est vrai que c'est deux absents majeurs au niveau de la ligne défensive, au niveau du milieu de terrain. Donc ça risque d'être compliqué pour trouver des automatismes, parce que comment on va se placer en termes de défense pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu mets Lucas Hernandez dans l'axe? Est-ce que tu mets Danilo? Est-ce que tu déplaces Mukiele dans l'axe? Il y a plein de questions qui vont se poser, beaucoup de questions auxquelles le technicien parisien va devoir répondre pour ce match qui est quand même, mine de rien, très important pour le Paris Saint-Germain, pour pas laisser l'AS Monaco Monaco espérer dans le championnat.
Ouais. Je rappelle ce soir, Justin, donc Paris Saint-Germain Monaco ouais. ce soir, 21h au Parc des Princes dans un froid glacial, voilà, de la capitale.
Ça, le froid glacial, je te le fais pas dire, Claude, mais non, je te rejoins plutôt dans le sens où Monaco, ça va être une des équipes qui va embêter le PSG, je pense, jusqu'à un certain nombre de journées, mais je suis pas aussi catégorique que toi par rapport à Nice. Je pense que Nice fait un gros début de saison. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, Nice est très ennuyeux à voir jouer, ça marque pas beaucoup de buts, mais Nice est très solide. Nice c'est la meilleure défense de Ligue 1
d'Europe même, je crois.
Et voilà, donc c'est pour dire que voilà, on Dante, moi, ça m'impressionnera toujours parce que j'ai plus l'âge, j'ai arrêté de compter quand il avait 35 ans. Donc, tu vois, je sais plus quel âge il a et il est toujours aussi solide, même s'il manque de
40 ans, je crois, il a.
Voilà, donc il est toujours aussi solide, même s'il a un petit déficit de vitesse, et il est toujours bien placé au bon endroit au bon moment. Sa charnière avec Todibo fait des ravages auprès des attaques de Ligue 1. Donc, je mets Nice quand même au même niveau à peu près que Monaco, même si Monaco est plus impressionnant offensivement, mais Nice est plus impressionnant défensivement. Donc j'en parlais hier, si sur les 34 journées tu fais une trentaine de matchs où tu gagnes que 1-0, tu peux être la pire attaque de cette Ligue 1, mais tu peux être champion de France en étant la meilleure défense de Ligue 1 et d'Europe. Donc pour revenir au PSG, oui, il y a des absents de marque. Je pense que de toute façon les compos vont pas tarder à tomber. Je pense que le mieux pour le PSG, ce serait de voir Danilo Pereira en défense centrale.
Je suis pas d'accord.
Mais je trouve que Lucas Hernandez fait du bon boulot du côté gauche. Après, sinon, tu mets qui sur le côté gauche ?
Je mets Moukile sur le côté gauche. Alors oui, certes, c'est pas son poste de prédilection, mais on sait que comment il a été testé cette saison à ce poste-là. Et donc pour moi, ce serait une certaine logique de donner ta confiance à Lucas Hernandez en défense centrale et à Moukile sur ce côté gauche. Alors oui, c'est pas son poste naturel, mais dans une défense centrale, Moukile à deux, pour moi, c'est pas assez solide. Et j'ai l'impression que Skriniar, Danilo, pour affronter la vivacité de Golovin, de Minamino, qui lance en profondeur Balogun ou Ben Yedder, pour moi ça risque d'être très compliqué. Je pense qu'ils peuvent se faire prendre dans le dos, parce que en fait quand t'as une défense, pour moi, Danilo, Skriniar, que tu tiens le ballon, moi tu t'exposes très fortement à te prendre des contres derrière. Surtout que quelle va être la tête du milieu de terrain parisien ce soir, ça risque d'être compliqué, parce que comme t'as pas Zaïre Emery, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu joues avec deux joueurs plus offensifs comme Likanjin avec Vitinha et Aougarté en 6 ? Et donc du coup t'aurais deux milieux de terrain qui sont plus à vocation offensive. Donc du coup encore cette question de qui va venir gérer les errances de Danilo et Skriniar si jamais ils sont pris dans leur dos. Est-ce que c'est un Aougarté qui va devoir jouer vraiment beaucoup plus bas, et on sait pas comment ça va se passer.
Après, je trouve que tu vois, tu parlais de Danilo, tu disais que c'était pas la meilleure décision. Après, je trouve que à chaque fois qu'il a joué, même le peu qu'il est joué, je trouve qu'il a été plutôt assez bon, et même l'année dernière
contre Clermont et Brest, je crois, cette saison où il joue en Ligue 1, et pour moi il prend l'eau sur les deux matchs, quoi. Pour moi, sur ces deux matchs là c'est un des pires parisiens sur la pelouse, et je trouve que depuis le début de saison, Danilo Pereira, c'est extrêmement compliqué, et ça a toujours été compliqué au Paris Saint-Germain.
Je verrai quand même cette tactique là plutôt que de mettre un Moukele côté gauche, même si c'est pas trop son poste. Donc moi je laisserai Lucas Hernandez, qui fait plutôt un bon début de saison avec le PSG, et de mettre Danilo en défense centrale. Alors après, oui, c'est sûr qu'en termes de vitesse, ça va pas être facile face aux attaquants monégasques, mais en tout cas, oui, enfin, pour moi, ça va être plus au milieu que ça va peut-être changer quelque chose avec l'absence de Zaïre Emery.
Les gars, je compte sur vous pour me trouver les compositions. Voilà la composition de cette rencontre, de cette affiche entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. J'en profite pour donner le classement. Voilà, après 12 journées, concernant donc les 5 premiers, hein, bien sûr, le Paris Saint-Germain en tête avec 27 points. Deuxième, poursuivi par les clubs azuréens, Nice 26, toujours invaincu en Ligue 1, avec seulement 4 buts encaissés. Et l'AS Monaco, 24 points, avec deux défaites contre une défaite pour le Paris Saint-Germain. Donc le PSG est en tête, c'est encore le début de saison, mais du côté de Nice et de Monaco, on tiendra.
Ouais, et puis surtout Nice, c'est la seule équipe invaincue en Ligue 1 pour l'instant encore. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça c'est pas très beau à voir jouer, mais ça reste très très solide, et pour l'instant ils sont deuxième, pas très loin du PSG.
La composition, est-ce que vous avez peut-être une
J'ai la composition de Monaco sous les yeux actuellement, mon cher Claude.
Allez, donc, Monaco.
Alors, on aura du coup notre cher Cone dans les buts, Singo, Maripane, Magassa, Vanderson, Zakaria, Camara, Jacobs, Minamino, Golovin et Balogun en pointe de cette attaque. On rappelle que Fofana est suspendu pour cette rencontre, ce qui peut jouer également des torts à l'AS Monaco. Fofana, on a vu réaliser une excellente rencontre face à la Grèce avec l'équipe de France, qui pour un excès de carton jaune, si je dis pas de bêtises, est suspendu pour le match face au Paris Saint-Germain, ce qui vient handicaper aussi cette équipe de Monaco, mais qui va quand même, au vu de la composition de l'équipe, va poser des problèmes au Paris Saint-Germain.
Alors, Ben Yedder joue ou pas ?
Moi, j'ai Balogun.
Ok, parce que je vois apparemment une nouvelle composition qui vient d'arriver.
Moi, j'ai l'AS Monaco officiel qui l'a tweeté.
Ah, ok. Bon, écoute.
Je sais pas, peut-être okay. que t'as raison.
Non, mais je sais pas.
Il y a une minute, le compte officiel Twitter de l'AS Monaco qui m'a donné l'équipe que je viens de vous donner.
Entièrement confiance.
J'ai confiance.
Et je te fais entièrement confiance, donc il n'y a pas de souci. Du côté du Paris Saint-Germain. Du coup.
Et du côté du Paris Saint-Germain, on cherche toujours et on n'a toujours pas la compo des Parisiens. Donc, on te dit ça dès que ça tombe.
Monaco réussit plutôt pas mal en général face au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que les Monégasques sont capables de réaliser un coup ce soir au Parc?
C'est ce que je disais hier, c'est que le PSG n'a plus battu Monaco en championnat depuis le 12 décembre 2021. Donc ça fait quand même un petit moment. Le Monaco s'était imposé 3-0 le 20 mars 2022, match nul le 28 août 2022 au Parc des Princes, et la dernière rencontre donc l'année dernière le 11 février 2023, Monaco s'était imposé 3-1 sur le Rocher.
On se rend compte quand même que quand Monaco a réalise une grosse saison, en général le PSG a un petit peu du mal.
C'est vrai, et puis au-delà de ça, pour moi c'est avec Nice peut-être, c'est l'une des seules équipes qu'on attendait à ce niveau-là, qui est à ce niveau-là Monaco. Donc il y a eu des errances sur des matchs qu'ils auraient dû gagner, où ils étaient vraiment supérieurs à leur adversaire sur le papier, où ils ont laissé des points, mais dans l'idée, contrairement, on voit un championnat qui est quand même très stacké au milieu de tableau, où on voit un Rennes qui est 13 ou 14e mais qui n'est qu'à un point de la zone de relégation, pareil du côté de l'Olympique de Marseille qui n'est pas très loin de la zone de relégation et qui est vraiment dans le ventre mou ce championnat. Donc des équipes qu'on attendait beaucoup plus hautes, Monaco répond présent jusque-là, et comme je le disais, Monaco fait souvent des très bons débuts de championnat et a du mal à assurer derrière. Là, je pense que vraiment, leur force va être la fin de saison, où les équipes européennes vont avoir plus de mal, auront plus de matchs dans les pattes, et où Monaco, justement, pourra tirer son épingle du jeu. Donc, s'il y a des points à prendre ce soir, il faut vraiment les prendre, parce que tous les points qui vont être pris ne seront plus à prendre plus tard. Et surtout, je pense que Monaco prendra des points, vraiment plus de points peut-être que leur concurrent direct en fin de saison. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, des absents de marque du côté du Paris Saint-Germain. Donc, il faut retrouver une tactique du côté de Luis Enrique, donc forcément tu changes les habitudes des joueurs, ça peut t'amener à te prendre une défaite ce soir.
Ça bouillonne à la réalisation avant la compo. Du côté de Solal qui a envie de dire deux trois mots, toujours des infos pertinentes de la part de Solal.
Oui, tout à fait. Juste avant la pause, écoutez, t'as posé la question, est-ce que Monaco va faire un coup ce soir? Écoutez, moi je pense que la question doit être plutôt inversée, est-ce que c'est le PSG qui va faire un coup? Parce qu'on le sait très très bien, Monaco, sur les dernières rencontres, ils ont pas eu trop de mal à bousculer le PSG, et la tendance s'est un peu inversée au fur et à mesure des années. Donc ceux qui doivent prouver ce soir et un peu montrer qu'ils sont toujours présents dans les confrontations entre donc ces Monégasques et ces Parisiens, c'est Paris, et c'est Paris qui doit montrer que voilà, les matchs qu'ils ont joué contre Monaco ces années précédentes, les mois derniers, vont servir à quelque chose ce soir et qui vont répondre par un jeu qui va être, je l'espère, magnifique, des buts et une très bonne défense face à cette très bonne équipe de Monaco.
Je voulais réagir.
Ouais, on a la compo du Paris Saint-Germain.
Ah voilà, elle est tombée, elle est arrivée.
Avec Donnarumma dans les buts, à droite Achraf Hakimi, à gauche Mukiele. Donc avec Lucas Hernandez et Skriniar en défense centrale, dont tu avais bien raison, Binge. Au milieu, avec Ugarte, Fabian Ruiz et Vitinha. Et devant, ce sera Dembélé, Kylian Mbappé, et non pas Kolo Muani, mais c'est bien Gonzalo Ramos qui va être en pointe de cette attaque du Paris Saint-Germain face à Monaco.
PSG Monaco, coup d'envoi 21h, on se retrouve juste après.
Time Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la deuxième partie de Thème Sport sur Beurre FM, la dernière émission de cette semaine au menu de ce Thème Sport. On parlera notamment de ce choc en première ligue entre City et Liverpool, c'est samedi, et puis bien sûr du Grand Prix, à Abu Dhabi. Allez.
Thème Sport, la parole des sociaux.
La parole des sociaux, ça nous a rejoint. Voilà, on l'a presque oublié, mais elle est indispensable à l'équipe. Alison, comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Bah, ça va impeccable.
Tous autour du tableau, du plateau, ça va?
Ça va très bien.
Alison, on parlait de ce match de ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco qu'on envoie à 21h, le premier contre le troisième. Voilà, ton ressenti sur ce choc de Ligue 1.
Mon ressenti, c'est que c'est un bon choc à venir entre une belle équipe de Monaco qui, à mon sens, est en tout cas cette équipe qui est le plus apte à titiller le Paris Saint-Germain éventuellement pour le titre, et le Paris Saint-Germain qui doit continuer sur sa lancée, qui doit se refaire, qui doit notamment aussi préparer l'Europe. C'est pas un match gagné d'avance pour le Paris Saint-Germain, mais c'est pas un match perdu d'avance non plus pour Monaco. Des deux côtés, on a des absences majeures. Du côté du Paris Saint-Germain, on peut se poser la question, par exemple, sur ce fameux milieu avec Zaïre Emery, justement l'un des acteurs principaux qui ne sera pas là. Et donc, du côté de Monaco, ça sera cette force de gagner cette bataille du milieu de terrain. On a aussi d'un côté au Paris Saint-Germain une attaque qui, on sait, fait peur quand elle est là. Et donc, Monaco devra combler notamment les ailes, et on sait aussi que Monaco, l'une des épines dans le pied de Monaco, c'est la défense. Ils se sont pris jusqu'à présent 15 buts, donc effectivement il y a des secteurs d'amélioration de ce point-là, mais en tout cas pour Monaco c'est un match essentiel parce que c'est une confrontation directe pour comme j'ai dit aller chahuter le Paris Saint-Germain, ou en tout cas pour accrocher le podium cette saison. Et le Paris Saint-Germain, faut continuer à dérouler, faut préparer Newcastle, la venue de Newcastle au Parc des Princes. On se rappelle que Paris Saint-Germain a pris 4-1 au match aller contre Newcastle, donc c'est important de se rassurer. Donc ce Paris Saint-Germain à Monaco, ça sera un gros choc avec des enjeux pour une fois, en tout cas en Ligue 1, avec des enjeux directs.
Pour toi, Monaco a les moyens de chahuter le PSG cette saison ou pas?
Bien sûr que le Monaco a des moyens. Monaco, je trouve, en tout cas si on met de côté certaines absences, et si on met aussi faut le mettre en avant, je l'ai dit, ces largesses défensives, mis à part ça, c'est vrai que ça reste une belle équipe. Et comme je l'ai dit, à mon sens, c'est l'équipe la plus apte à aller pour pouvoir en tout cas chahuter le Paris Saint-Germain, et c'est l'une des équipes les plus belles, à mon sens, à avoir joué cette saison en Ligue 1.
C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça de cette équipe de l'AS Monaco qui ne dispute pas la Coupe d'Europe, et c'est vrai que chaque saison, on se rend compte qu'il y a un recrutement qu'on qualifie de bizarre, beaucoup de départs, beaucoup de mouvements. Quel est votre ressenti de cette équipe monégasque?
Il y a eu un bon recrutement qui a été fait. Alisson et Benjamin l'ont très bien dit, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc du coup, ils ont le temps de voir venir sur la semaine. Ils ont le temps même de récupérer les blessés, parce qu'il n'y a pas de match tous les 3 jours. Donc ils sont assez tranquilles là-dessus. Et puis il y a un recrutement qui a été très bien fait. Il y a une profondeur de banc. Ils ont une qualité de banc cette saison qui me fait dire aussi qu'ils sont aptes à titiller le PSG pour le titre de la Ligue 1.
Ouais, et sur la durée en plus, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression que dans cette équipe de Monaco, contrairement aux autres années, tous les postes sont quasiment doublés, et où tu as vraiment une assurance derrière de pouvoir mettre un joueur à la place d'un autre. On sait qu'il y a pas mal de joueurs stars de l'AS Monaco qui sont aussi pas mal assujettis à avoir des blessures, que ce soit musculaires ou autres un peu plus graves. On touche du bois pour eux, évidemment, pour pas que ça arrive. Mais derrière, t'as les ressources pour venir avoir des joueurs qui les remplacent et qui permettent justement à cette équipe de Monaco d'aller chercher le Paris Saint-Germain plus loin dans la saison. Et là où je rejoins totalement Alisson, c'est que je pense que ce soir, on aura un match avec pas mal de buts, dans le sens où Marquinhos n'est pas là ce soir, et donc on se retrouve avec une défense centrale aussi qui va peut-être avoir du mal du côté du Paris Saint-Germain. Tu n'as pas Zaïre Emery, donc tu te retrouves avec un milieu de terrain qui va être à Ugarte, Fabian Ruiz, avec Vitinha. Il est annoncé sur un côté, mais je pense qu'il sera vraiment en rôle de 8-10 plutôt, avec un Fabian Fabian Ruiz en 6-8, ce qui est un peu mon point d'interrogation, parce qu'on sait que c'est pas un poste où je le trouve très bon à ce poste-là. Je trouve qu'il est vraiment meilleur quand il remplace Ugarte en vrai numéro 6. Donc j'ai des questions sur ce milieu de Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y aura des errances de ce côté-là que Monaco pourra vraiment faire du bien. Je pense notamment à un joueur comme Golovin qui pourra faire vraiment très mal à cette équipe du Paris à la défense du Paris Saint-Germain, que ce soit par ses accélérations et sa vision de jeu, où tu pourras vraiment sur un crochet éliminer un Ugarte, et pourquoi pas même aller chercher un défenseur central, voire un latéral, et derrière trouver un Balogun dans l'axe. Je pense que cette, je pense qu'on aura une équipe qui sera, voilà, qui sera très offensif des deux côtés. Le Paris Saint-Germain avec le ballon qui risque de se découvrir énormément et avec du coup des joueurs de Monaco qui vont beaucoup jouer en contre-attaque avec des joueurs comme Minamino, Balogun et Golovin. Et de l'autre côté, une attaque du Paris Saint-Germain qu'on connaît létal avec Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos qui vont faire du bon boulot et je pense que ouais je pense qu'on aura un match avec des buts à voir maintenant qui marquera le plus de buts que l'autre.
Après il y a deux choses aussi, c'est que déjà on parlait du banc de Monaco et du recrutement, il y a aussi surtout un vrai bon gardien cette saison.
Ouais.
Ça fait la différence.
Ils avaient du mal pendant des années à stabiliser le poste de gardien
et
effectivement
c'est là il y a un très bon gardien qui est arrivé et ça fait la différence. Et la deuxième petite chose, c'était on parlait de la composition. C'est là qu'on voit aussi peut-être que Luis Enrique craint beaucoup l'AS Monaco, parce qu'on en parlait pendant la pub avec Benjamin, c'est-à-dire que on aurait peut-être aimé voir plus un Lee Kang-in titulaire qui serait un peu plus offensif et de voir Vitinha un peu plus au cœur du jeu. Et là, on voit qu'il a préféré titulariser Fabián Ruiz, peut-être par la peur de cette attaque monégasque et d'être un petit peu plus défensif.
Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour éviter d'être pris dans le dos, comme on expliquait tout à l'heure, d'avoir vraiment deux milieux de terrain qui peuvent combler les errances de l'un ou de l'autre,
tout à
et
fait,
surtout des défenseurs centraux qui peuvent avoir un petit déficit.
Les défenseurs centraux, et pardon, tu disais combler, c'est important quand on a les trois devant Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, on sait que le repli défensif n'est pas fait. Et on en parlait sur ce plateau, c'est-à-dire que là, malheureusement, ils perdent un maillon essentiel de leur chaîne avec le petit Zaïre Emery. Et effectivement, quand on ne sait pas trop ce que ça va donner ce milieu avec ce maillon libre, etc., c'est important que Ramos, qui lui, je le rappelle, fait les efforts défensifs. Donc effectivement, combler un petit trou pour faire les efforts
défensifs. Le repli défensif.
Moi, j'ai du mal à faire l'effort, pour le coup. Pour faire le repli défensif sans le ballon, c'est très important.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est titulaire.
C'est Ramos,
tout à fait. C'est pour ça.
Et puis, au-delà de ça, quand on parlait de manque de complémentarité aussi, peut-être du côté du Paris Saint-Germain, on parle du milieu, on parle de la défense, parce que Marquinhos et Zaïre Emery, c'est quand même deux absences de marque. On va du coup avoir Lucas Hernandez dans l'axe et Mukiele sur le côté gauche. Et c'est vrai que Mukiele, c'est pas son poste de prédilection. On sait qu'il est capable de le faire, il l'a déjà fait, mais il n'y a pas non plus de gros matchs référence à ce poste-là. Donc attention, est-ce que du coup on aura Lucas Hernandez qui va vraiment aussi s'occuper de peut-être combler les errances? Donc en fait, on a l'impression que dans ce Paris Saint-Germain ce soir, c'est qui comblera les errances
c'est
de
ça,
qui.
C'est ça, faut colmater les brèches.
Voilà, un vrai puzzle. Et j'espère que du côté du tacticien parisien, on est bon en puzzle, parce que ce soir, il y en a un de mille pièces.
Mais au-delà de ça, excuse-moi Claude, on peut dire aussi que peut-être que Luis Enrique est devenu raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas plus beau qu'il ne l'est, par exemple, à l'image de ce qu'il avait fait à Newcastle, c'est-à-dire mettre quatre offensives, on y va parce qu'on sait qu'on a le Paris Saint-Germain et que le potentiel offensif, on l'a, on se découvre, au milieu, on ne sait pas trop ce que ça donne, et de toute façon, on espère un peu, marquer le plus de buts. Peut-être que là, je trouve, en tout cas, dans ses choix de joueurs, qu'il est devenu un peu plus raisonnable, qu'il craint justement cette équipe de Monaco, qui se dit aussi qu'il est important de faire de faire jouer en tout cas quasi les joueurs à leur poste, quasi j'insiste sur
après,
le quasi
pas le choix non plus, là, pour
exactement, c'est pour ça que j'insiste sur le quasi et en tout cas de aussi gérer l'aspect défensif, ce qui est très important.
Après, tu disais que il était raisonnable, mais je pense que ça date pas de ce soir, je pense que ça date vraiment, comme tu dis, depuis Newcastle.
Ouais, c'est ça,
parce qu'il avait déjà essayé ça avant Newcastle à Clermont, si je dis pas de bêtises,
face à l'OM aussi.
Face à l'OM, mais face à l'OM ça avait bien marché. Moins bien face à Clermont, et il a vu tout de suite que face à Newcastle ça prenait pas, parce que comme tu disais, les efforts défensifs étaient pas faits. Là voilà, je pense que depuis Newcastle, il a quand même repris son espèce de 4-3-3 qui fonctionne un peu mieux. Mais ça, c'est encore une fois, c'est quand tous les joueurs font les efforts, quand tous les joueurs mettent l'intensité. J'en parlais déjà hier, on dénigrait la Ligue 1 avec les propos de Thierry Henry, les réponses de Luis Enrique et de Michel Derzakarian. Voilà, c'est parce que aussi des fois ces équipes-là ne mettent pas l'intensité qu'il faut. Et ce soir, Monaco qui ne joue pas la Coupe d'Europe, Monaco, ils préparent ce match depuis une semaine et ce sont des morts de faim et ils vont vouloir faire quelque chose au Parc ce soir.
À la réalisation, n'hésitez pas à réagir au 01 53 48 3000. Solal, tu voulais réagir?
Oui, tout à fait. J'avais une petite statistique pour vous, les amis. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, ça vous aura pas échappé. Un joueur du PSG qui a joué dans les deux camps, et c'est Kylian Mbappé qui s'apprête à retrouver une équipe dans laquelle il a joué, notamment donc au Stade Louis II.
Champion de France 2017.
Exactement. Et donc, Kylian Mbappé, je me suis un peu intéressé donc à son cas aujourd'hui. J'ai fait quelques recherches. Et donc, il y a une statistique qui est assez épatante et qui va donc faire rager un peu tous les fans de Cristiano Ronaldo, malheureusement. Je tiens à m'excuser. Alors, donc Kylian Mbappé qui, en finale de Coupe du Monde, juste la Coupe du Monde, a déjà marqué 4 buts dans sa carrière. Là où Ronaldo, dans une donc, compétition internationale, n'a marqué que 3 buts et c'était que dans les phases finales. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que les phases finales, c'est tous les matchs avant la finale. Donc
à élimination directe, c'est ça. Donc à partir des huitièmes de finale. Ouais.
Donc voilà, Cristiano qui n'est qu'à 3 dans les phases finales et Kylian Mbappé qui s'envole et j'espère qu'il fera un bon match. Tous les yeux seront forcément rivés sur lui comme la plupart des matchs du PSG. Mais écoutez, il sera bien servi aussi par ses camarades et j'espère qu'on va retrouver cette connexion qu'on avait plutôt bien appréciée lors des derniers matchs entre non seulement Kylian Mbappé mais aussi Gonzalo Ramos. Je lui souhaite tout le meilleur, surtout qu'il a prolongé ou il a retiré son
sa clause
voilà, jusqu'en 2027. Donc on lui espère que du bien à Gonzalo Ramos.
Il devrait recevoir quelque chose, non, Kylian Mbappé, je crois, ce soir.
Tout à fait. À titre, exactement. Un petit badge sur l'épaule. Et c'est donc un designer qui a notamment travaillé avec Dior, Louis Vuitton, la maison Moncler, qui a tout simplement soufflé à l'oreille de la Ligue 1 de mettre en valeur les meilleurs scoreurs de la Ligue 1. Et donc Kylian Mbappé, comme vous le savez, le meilleur scoreur de la Ligue 1, il va être le premier donc à arborer ce petit badge avec un S et un 1, badge forcément doré, qui va donc cool. Le mettre encore plus en lumière.
Sur son maillot personnel, donc il y aura
Ça s'appelle le top scoreur, en fait. Top scoreur.
Comme au basket, non? C'est pas ça, non? Ils ont passé au basket?
Non, alors, ils ont des bagues au basket.
Il n'y a pas, de distinction.
Non, il n'y a pas de distinction pour le meilleur marqueur de la ligue, non?
Okay. Mais
je confonds.
mais merci pour la passe décisive, cela, parce que tu parlais de connexion avec Mbappé autour de lui, etc. Moi, j'ai l'impression que je me répète quand même beaucoup dans cette émission, mais c'est que j'ai envie de voir et enfin voir un grand match d'Ousmane Dembélé ce soir. Parce que j'ai l'impression qu'on est le 24 novembre, il a toujours pas commencé sa saison. Donc, ouais. Moi j'ai envie de voir le Dembélé de Barcelone qui dribble, qui percute, qui fait des passes.
J'ai une question, Mathieu. Est-ce que tu penses que son but en équipe de France va influencer justement la manière dont il va jouer?
Je pense pas. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore vraiment rentré dans cette saison et c'est dommage parce que je trouve que c'est un joueur avec une qualité exceptionnelle et j'aimerais bien qu'il, pour lui et pour le PSG, qu'il rentre enfin dans sa saison, quoi. Et c'est dommage pour.
Moi, oui. Je pense qu'à contrario, il est très bien rentré dans sa saison, mais que Ousmane Dembélé fait du Ousmane Dembélé. C'est-à-dire, malheureusement, c'est un joueur que j'affectionne énormément parce qu'en talent intrinsèque, je trouve que c'est l'un des meilleurs de sa génération. Cependant, Ousmane Dembélé, c'est pas un buteur. Ousmane Dembélé, c'est quelqu'un qui, après avoir fait, par exemple, un bon dribble, deux bons crochets, ensuite, c'est le brouillard total. Il sait plus quoi faire de la balle. Soit il glisse, soit il fait mauvaise passe, soit il perd le ballon. Donc, je sais pas ce que vous attendez de plus. En tout cas, à l'heure actuelle, d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé fait du Ousmane Dembélé et ça restera comme ça.
Je veux voir le Ousmane Dembélé de Barcelone qui faisait des passes décisives, qui marquait quand même beaucoup plus que dans ce début de saison.
Oui, il a marqué trois buts sa dernière saison. Ousmane Dembélé, c'est pas non plus un scoreur de fou. Hein.
Merci les amis, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour sur Time Sport, dernière émission de la semaine. Time Sport sur Beurre FM, 20h, 21h. N'hésitez pas à réagir au standard, au 01 53 48 3000 avec Solal qui est chaud comme la braise. Ce soir, dès qu'il s'agit de parler du PSG, là, attention, il est au taquet, donc va falloir répondre présent. Un petit coucou du côté de Toulouse, on nous écoute également. On revient, voilà, et on termine très rapidement avec le PSG, Ousmane Dembélé. C'est vrai que par rapport à ce que l'on attend de lui, ça reste malheureusement une énigme.
Ouais, bah oui, c'est compliqué. Comme comme on était en train d'en parler en antenne et ce que je disais, mon ressenti, moi j'ai l'impression que en fait, Ousmane Dembélé réfléchit trop. Voilà, on disait qu'il avait du mal. Moi, je pense que simplement il réfléchit trop et il perd ce qu'il fait, selon moi, l'essence d'Ousmane Dembélé, ce que j'ai adoré. Mais vraiment, vous imaginez même pas à quel point j'ai aimé Ousmane Dembélé quand il était à Rennes, quand il était à Dortmund, c'est qu'il perd cet instinct du joueur qui ne sait même pas ce qu'il va faire avec le ballon au moment où il le reçoit et même avant qu'il le reçoit. Mais ce qu'il fait derrière, c'est exceptionnel parce que derrière, il sait où est son partenaire. il, dès qu'il a le ballon, il y a l'éclair de génie qui fait que la passe est bonne, que le tir est bon, le nombre de frappes qu'il prenait à Rennes des fois, vous dites non, il va pas la prendre, et ça rentrait, parce que il n'a pas réfléchi à quelle était la meilleure option. Il a fait ce que son cœur lui disait et ce que le foot lui disait à ce moment-là. Et maintenant qu'il est au Paris Saint-Germain, et ben comme ça ne fonctionne pas, comme il est en difficulté, et ben il va à l'inverse de sa nature. Il fait quelque chose qui est contre nature, c'est-à-dire que même avant qu'il reçoive le ballon, il réfléchit à ce qu'il va faire après. Donc ça ne peut pas fonctionner quand tu es un joueur d'instinct, comme Ousmane Dembélé. Il y a plein d'autres joueurs comme ça hein, qui existent dans le football, qui sont des joueurs d'instinct. Il ne faut pas les brimer, il ne faut pas qu'ils réfléchissent trop. Ils sont tellement talentueux, ils sont tellement forts qu'il faut laisser faire.
Mais justement, on a le sentiment qu'il a perdu un peu de sa superbe depuis un petit moment, Dembélé, non ?
Non, je pense qu'il a surtout perdu de la confiance, Ousmane Dembélé, qui se met énormément de pression.
Moins fou.
Combien de fois il s'est blessé aussi?
Ouais, mais là, tu vois, il revient la saison dernière, il a quand même pas mal joué. Je crois que c'est l'une de ses saisons les plus pleines qu'il ait pu faire au FC Barcelone. Là, quand il arrive, il n'est pas forcément blessé. Depuis le début qu'il est arrivé, il est titulaire. Donc je pense que quand même, niveau physique, il y a quand même quelques pépins qui se sont estompés et du moins effacés. Je touche du bois jusqu'à présent. Mais moi, je pense énormément qu'il a perdu énormément de confiance et qu'il se met énormément de pression. C'est quand même un gros transfert, Ousmane Dembélé, c'est quand même un gros salaire. Ça trotte aussi dans la tête des joueurs, ça reste
comme Colomoyni notamment.
Exactement, ça reste Paris. Paris, c'est chez lui, c'est un natif de la banlieue parisienne. Donc forcément, la pression n'est pas la même que quand tu vas jouer à Barcelone. Il fait partie aussi des cadres de cette équipe parisienne. C'est le pote de Kylian Mbappé. Il fait partie de la bande à Kiki. Ça aussi, il faut le dire, c'est une responsabilité. Et il est beaucoup plus scruté qu'ailleurs. Quand Dembélé jouait à Barcelone, il n'était pas autant scruté que quand il joue à Paris. C'est-à-dire que là-bas, ok, c'est un talent, c'est un petit génie, mais c'était pas la star de cet effectif. Alors qu'ici, c'est la star de cet effectif. Et avant, pour reprendre ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire il y avait énormément de déchets. Je suis d'accord. Mais sauf qu'il y avait une bonne action. Il y avait une action qui faisait que Dembélé faisait la différence. Il y avait le bon crochet puis la bonne passe décisive. Il y avait la frappe, que ça rentre ou pas d'ailleurs, mais il y avait cette action qui allait au bout. Et on avait tendance un petit peu à oublier les 70 premières minutes où il y avait énormément de déchets. Sauf que maintenant, depuis quelques temps, il n'y a plus ça.
Il n'y a plus
la petite action de génie justement qui fait oublier les déchets, les passes, des fois le contrôle raté qui va en touche. Maintenant, il reste que ça de Dembélé. C'est un joueur qui réfléchit beaucoup trop et qui a beaucoup trop de pression.
Pour finir sur ce que tu disais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Et moi, voilà, l'Ousmane Dembélé d'avant, qui avait beaucoup de déchets, c'est quelque chose qui ne me dérangeait absolument pas, parce que c'est exactement ce qu'on lui demande. Moi, je déteste ces entraîneurs. Et ce qui arrive extrêmement maintenant en équipe de jeunes, pour être aussi sur les terrains, par exemple, sur les équipes plus jeunes, j'entends énormément d'entraîneurs. Quand un joueur sur le côté commence à essayer d'éliminer son adversaire pour faire la différence, crée le décalage. Si le ballon est perdu, si derrière ça met une contre-attaque qui amène un corner, qui amène un but, c'est dehors, tu sors. Comment tu veux créer des joueurs, tu vois, dans ce sens-là, Ousmane Dembélé, c'était typiquement ce genre de joueur qu'il ne fallait pas brimer à cette époque-là. Et il fallait le laisser faire ses choses, il fallait le laisser faire son art, parce que oui, il y a du déchet, mais oui, il y a l'excellence derrière.
Exactement.
Allez, on va quitter la Première Ligue, la Ligue 1, pour justement retrouver la Première Ligue.
Time Sport, le mode pressing.
Le mode pressing, demain après-midi, 13h30, le choc de la Première Ligue entre City, leader avec 26 points, 28 points. Voilà, qui reçoit Liverpool, son dauphin, 27 points, qui est au passage égalité avec Arsenal, les amis. On a un beau choc là. Hein.
Ouais, on a un super
choc.
C'est
pas mal. Hein.
13h30 samedi, si je dis pas de bêtises.
13h30.
Voilà, pour digérer après.
C'est parfait.
Après le repas du midi du samedi, ça va être un véritable bonheur, bien évidemment. Un choc tactique aussi, au-delà du choc entre des immenses stars sur le terrain. Jurgen Klopp, Pep Guardiola, ça va être un super match, un choc, un grand classique désormais de la Première Ligue et du championnat anglais. On a vu ces équipes sur les dernières années se tirer la bourre jusqu'à la fin pour obtenir le titre de champion, voir ces équipes dépasser les 100 points, les 90, les 95 points. C'est des équipes majeures qui ont fait des saisons absolument exceptionnelles et qui, cette année encore, vont nous réserver un superbe spectacle. On a en plus de ce côté-là une équipe de Liverpool qui, de son côté, eux jouent la Ligue Europa. Donc peut-être qu'ils peuvent se permettre à des moments de faire plus tourner. On a pu voir ce qui avait créé un échec face à Toulouse. Mais dans l'ensemble, ça peut leur permettre... Voilà, sur ce début de saison, peut-être de faire plus tourner, de maintenir la pression sur Manchester City. Mais au-delà de ça, on va avoir une superbe rencontre de football entre des joueurs magnifiques. Mais surtout, moi, je pense que la différence se fera sur quel entraîneur appréhendra le mieux comment contrer l'autre.
On pensait le Liverpool de Klopp sur la fin.
La saison dernière,
rappelez-vous quand même, c'était compliqué. Et aujourd'hui,
ça fait du bien de les retrouver aussi d'un côté, parce qu'on va revoir. Et puis là, justement, ce choc, est-ce qui va pas profiter le plus à Arsenal, qui joue à Brentford
à 18h30 aussi, Tottenham, hein.
Et à Tottenham. Tottenham reste quand même sur deux défaites consécutives.
Mais qui propose un des plus beaux jeux de première ligue depuis le début de saison.
Un très beau jeu, mais voilà, c'est sûr que là, j'espère voir un très gros match avec beaucoup, beaucoup de buts. On va voir Erling Haaland face à Mohamed Salah, notamment, avec les Darwin Núñez, etc. Mais c'est vrai qu'on va avoir des stars à chaque poste. Et devant un public fantastique comme souvent en Angleterre, donc et puis les tacticiens qui vont s'affronter, à voir ce que ça va donner aussi, ça va être super intéressant.
C'est vrai que la première ligue est serrée, comme vous l'avez dit, car derrière on se retrouve avec Arsenal, hein, qui est égalité avec Liverpool, 27 points, son rival de toujours, Tottenham 26, et puis bah Aston Villa aussi qui est là, dont on parle pas,
25 points.
Avec qui comme entraîneur?
Non,
un certain Unai Emery qui fait un travail extraordinaire.
Il est passé par où déjà même, celui-là
il est passé dans le club de la capitale, je crois,
lequel
en France.
Paris, non,
Paris FC, PFC, non,
le Resta,
Paris Saint-Germain,
le
Racing,
c'est bizarre comme ils arrivent à réussir ailleurs.
C'est étonnant,
mais il avait échoué à Arsenal, vous inquiétez pas, Emery il avait jamais été bon à Arsenal.
Oui, il a pris la suite d'un certain Arsène Wenger, donc c'est pas facile non plus.
Il avait été bon.
En fait, ce qui est agréable cette saison, c'est de voir que j'ai l'impression que 4-5 équipes peuvent gagner cette première ligue, tellement c'est dense et il y a une telle qualité. Tout le monde peut battre tout le monde, c'est-à-dire que le dernier peut battre le troisième, peut battre le quatrième. On a vu même l'année dernière Arsenal qui a été perdre contre le dernier, ou qui a fait match nul à domicile contre l'avant-dernier. Donc c'est vraiment très impressionnant, je trouve, dans ce championnat où...
Bon, pour le moment, on a Burnley qui a tout perdu, enfin qui est en difficulté avec 4 points.
Mais c'est très compliqué.
Ouais, mais si ça se trouve, dans 2 semaines, Burnley va faire match nul à City. Tout est possible.
Juste un tout petit mot rapide sur Burnley, je te laisse main juste derrière. Burnley qui était en Championship la saison dernière et qui avait fait une saison absolument magistrale, peut-être une des meilleures saisons de deuxième division anglaise, et que tout le monde voyait beaucoup plus haut cette saison, avait énormément d'espoir sur Burnley, des gros investissements, et puis même on sait que les Anglais se fient beaucoup aux bookmakers, et les bookmakers les voyaient beaucoup plus haut et voyaient beaucoup de bien dans cette équipe de Burnley qui... Beaucoup de mal, beaucoup de mal.
Bon, c'est pas fini. Il y a Everton, surprise, hein, qui est à 4 points également, qui décolle pas. Sheffield, Luton, enfin bref,
Everton, ça fait quand même quelques saisons que c'est compliqué. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, ils se sont sauvés à la dernière journée ou à l'avant-dernière journée. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'Everton a perdu un peu de sa superbe et que c'est un peu compliqué pour les Toffees.
Alison.
Juste pour revenir à ce que tu disais, Claude, tout à l'heure sur Jurgen Klopp, c'est quand même fantastique et une force de caractère incroyable ce qu'il est en train de réaliser, en tout cas pour ce début de saison. Je le rappelle, l'année dernière, Liverpool qui était en très grande difficulté. Je rappelle, l'année dernière, tout le monde voulait sa tête. On disait que peut-être le cycle de Jurgen Klopp c'était fini, que peut-être il avait essoufflé et essouré ses joueurs. Il y avait énormément aussi de discorde au sein du vestiaire, avec notamment le Sadio Mané qui est parti parce qu'il y avait cette rivalité avec Mo Salah, comme quoi on mettait pas assez en avant Sadio Mané aux dépens de Mo Salah. Donc il y avait énormément de choses qui pouvaient l'enterrer et faire cette saison ne réussisse pas. Et là on est en train de voir que il est deuxième pour l'instant. Après, la saison n'est pas encore finie, surtout en première ligue ça peut aller très très vite, et ce qu'il est en train de faire, en tout cas avec Liverpool pour ce début de saison, je trouve incroyable. Donc je tenais à souligner sa force de caractère, ce qui est totalement admirable.
Pour t'appuyer, c'est un peu cette capacité aussi de renouveler les effectifs. Souvent on parle de fin de cycle des entraîneurs, mais si tu as la capacité de renouveler des effectifs, eh ben ça peut te permettre de repartir. Enfin, il y a des exemples, surtout en Première Ligue, nous en France, Wenger, Ferguson, voilà, ils ont été capables eux,
de faire un véritable cycle. Et Jürgen Klopp, là aussi où il a un avantage, c'est qu'il a une vraie poigne. Il c'est vraiment un entraîneur à poigne qui a des idées, qui a des objectifs, qui a l'entraînement, c'est carré, ça déborde pas. Si tu t'entraînes pas, tu sors. Et ça permet aussi du coup de ramener une rigueur dans un club. Et quand t'as de la rigueur dans un club, plus de la cohérence sportive, c'est un club qui ne reste pas très longtemps dans les bas du classement. Donc moi, je suis pas spécialement surpris de voir Liverpool à ce niveau-là. Peut-être à la deuxième place, aussi proche de City, oui. C'est dans un top 4, moins. Après, ils sont pas non plus si loin d'une 4e ou d'une 5e place. Et juste, voilà, pour revenir sur Everton, ils sont aussi bas au classement parce qu'ils ont pris 10 points de pénalité aussi, il ne faut pas l'oublier, pour cause de non-respect du fair play financier. Voilà.
Et il y a Manchester City aussi qui est peut-être sous le coup d'une sanction. Il y aurait eu des fraudes au sein.
Ça avait explosé il y a quelques mois.
Exactement, il y aurait eu des fraudes au sein du club et la sanction qu'ils peuvent, en tout cas qu'ils pourraient avoir, c'est une relégation automatique.
Ah oui.
Ah!
Donc ça va au-delà des 10 points de pénalité qui ont été posés à Everton. Donc
exactement. C'est l'une, en tout cas, des sanctions qui risque, pour l'instant, l'une des hypothèses qui a été émise.
Après, tu vois, voilà, tu parlais tout à l'heure, Claude, de Jürgen Klopp, qu'il a réussi à recréer un effectif, etc. Mais il a réussi aussi lui-même à se réinventer, à changer quelque chose. Et puis moi, je voulais revenir aussi, justement, on parlait d'Arsène Wenger, d'Alex Ferguson. On en parlait il y a quelques semaines sur ce plateau avec Lionel Bélanger, qui était venu pour parler des coachs. C'est-à-dire qu'en Angleterre, toutes les saisons qu'ont fait les Klopp, Wenger, Alex Ferguson et consorts, on leur laisse énormément de temps. La saison que fait Jürgen Klopp l'année dernière en France,
il aurait sauté
au bout de 3 mois. Et là, on lui a laissé le temps. Les supporters ont un peu râlé, etc. À un moment donné, ils réclamaient sa tête. Mais il y a quand même eu toujours cette forme de confiance envers Jürgen Klopp, comme il y a eu la confiance envers Alex Ferguson, envers Arsène Wenger et d'autres. Et ça, on ne le voit pas en France, ou alors très peu. Ça fait combien de temps que le dernier coach qu'on a vu comme ça, est-ce que ce ne serait pas Giroud?
Dans un aussi gros club avec autant d'enjeux, avec autant de patience, c'est vrai qu'on le voit très rarement.
Là maintenant, tous les ans, on se dit, on fait limite des pronostics de qui va sauter en premier en France.
Je rebondis par rapport à ce que tu dis parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas que la Première Ligue dans ce cas? Parce qu'en t'écoutant, je pense quand même aussi à des championnats comme l'Espagne ou l'Italie. Je pense pas qu'au Real Madrid,
ça fait combien de temps Carlo Ancelotti est au Real Madrid?
Il y a eu des changements avec Zidane, etc.
Il y a eu des changements.
Il est reparti.
Mais pourquoi il n'y a qu'en Angleterre? Est-ce qu'il n'y a pas qu'en Angleterre où le coach a réellement un poids au-delà que de la technique tactique sur un match? Il va avoir un œil vraiment sur le recrutement.
Ce sont des managers. Un pouvoir plus important.
Exactement. C'est même eux qui ont un mot à dire, limite sur le financier.
Certains n'ont pas de directeur sportif.
Mais exactement. Et c'est plus important. Enfin, moi, je l'ai déjà dit énormément de fois. J'en suis persuadé. Pour que ça fonctionne dans un club, il faut que l'entraîneur et le côté sportif dans le club marchent dans la même direction. S'il y en a un qui dit gauche, l'autre qui dit droite, c'est un club qui finit par couler. Et en Angleterre, si c'est le gars qui est à la fois coach et en même temps c'est lui qui est chef scout, qui te dit toi tu vas me recruter lui, toi tu vas me recruter lui, toi attention, je vais plus prendre lui comme assistant vidéo aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment
community manager.
Mais on en rigole, mais on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une main mise sur leur club pour que ça soit à leur image. Et quand un club est à l'image de leur coach, c'est quelque chose qui marche.
Et je prends le championnat de France parce que c'est celui qu'on connaît le plus évidemment, mais c'est vrai que ça existe dans d'autres championnats. Mais je trouve qu'il faudrait prendre cet exemple justement en Ligue 1 de cette première ligue, parce que je prends les deux exemples des clubs français, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain l'année dernière, certes il y a eu un échec avec Christophe Galtier en Ligue des Champions, mais il reste quand même champion de France. Voilà, derrière il se fait virer, on prend Luis Enrique, mais on n'a pas la certitude qu'avec Luis Enrique ça aille au bout non plus. Après c'est pareil du côté de l'Olympique de Marseille, il y a 2 ans, Sampaoli fait du super boulot, il emmène l'OM en Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'il y a eu des soucis avec la direction, donc il est parti. On fait venir Igor Tudor qui a fait une super saison aussi. Derrière, on voit qu'il y a eu encore des soucis avec la direction. Il part. Donc il n'y a pas de stabilité avec les entraîneurs dans cette Ligue 1. Mais il faudrait voilà, plus de stabilité. Là, quand je vois qu'apparemment il y aurait une piste Sampaoli à l'Olympique Lyonnais, alors que Grosso est arrivé il y a même pas 3 mois, enfin, ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire parce que il a rien choisi, Fabio Grosso, du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Il arrive, l'équipe est déjà faite. Il faut du temps quand même pour s'adapter à tout ça. Et 3 mois après, même pas, on dit peut-être qu'il y aurait un autre entraîneur. Et ça ferait quoi? Ça ferait 3 entraîneurs en même pas 6 mois.
David Friot a quitté la direction marseillaise pour certainement rejoindre Lyon. Donc peut-être qu'ils veulent refaire un Marseille
bis. Avec un Mathieu Louis-Jean qui est aussi arrivé.
Exactement.
Et donc ils ont déjà travaillé ensemble.
Si Sampaoli m'écoute, il faut surtout pas y aller. Voilà.
Ou qu'il arrive peut-être avec des cheveux longs. Avec des cheveux longs.
Oui. Pourquoi pas.
Un petit mot de Formule 1, les amis, à Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison.
Voilà, c'est une saison qui se termine, une saison ultra dominée.
Très triste.
Oui, on est toujours triste quand c'est le dernier Grand Prix de cette saison. On a vu une saison qui était certes pas très palpitante, puisqu'on a un Max Verstappen qui a dominé de bout en bout l'entièreté de la saison. Enfin là, il reste encore une course. Il est à 549 points. Sergio Pérez, qui est deuxième, est à 273. Messieurs, dames, c'est une archi-domination. À regarder, peut-être à suivre, parce qu'il y a toujours un peu de piment. Ça reste une belle course déjà à Abu Dhabi dans un premier temps. Donc je vous conseille de la regarder, mais surtout pour la quatrième place.
Et puis il y a quand même au constructeur une bataille entre Ferrari et Mercedes où il y a que 4 petits points d'écart. Et on sait qu'en termes de budget pour la saison à venir, la deuxième ou la troisième place c'est assez important. Donc on va suivre ça. Et j'avais une petite stat aussi, c'est que il y a plus d'écart entre Verstappen et Pérez, donc 1 et 2, qu'entre Pérez et le dernier de la grille.
Exactement.
C'est pour dire l'écart que Verstappen a mis à cette Formule.
Et Red Bull aussi en règle générale, hein, pour le coup. Et puis voilà, pour la quatrième place, ça va être très serré également. Pour la quatrième place, pilote, pour le coup, on a Carlos Sainz pour le moment et Fernando Alonso qui sont égalités avec 200 points. Lando Norris qui est juste derrière à 195 points. Donc 3 hommes pour une place, à voir.
Dimanche 26 novembre, 14h, Grand Prix d'Abu Dhabi. Merci Alison, merci Mathieu Benji, merci à vous. Passez un bon week-end, on se retrouve lundi avec Bilal, 20h-21h, Time Sport.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.